Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. 5 ans de prison, 30 000 euros d'amende, c'est ce que risquent en France les personnes qui contreviennent à l'article L622-1 du Code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Cela concerne toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. C'est ce que les associations d'aide aux migrants appellent le délit de solidarité et c'est l'un des points de discussion de la très controversée loi asile et migration dont nous avons déjà débattu ici et qui est en discussion depuis lundi à l'Assemblée nationale. La répression de la solidarité avec les migrants peut-elle continuer de la même manière? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Cécile Coudriou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente d'Amnesty International France. Et Aurélien Taché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise, membre de la Commission des Affaires Sociales. Et vous êtes l'auteur d'un rapport sur l'intégration des immigrés. Ce sont des affaires qui ont fait la une des journaux parce qu'elles ont ému, étonné ou tout simplement fait débat ces dernières années. Cédric Héroux, l'agriculteur qui aide les migrants dans la vallée de la Roya. Martine Landry, une militante de chez vous, Amnesty, à Menton,
absolument,
près de Nice, et d'autres encore ont été poursuivis en vertu de cet article L622-1 du CESEDA. S'agit-il seulement d'affaires emblématiques, en gros, pour faire des exemples, ou est-ce que c'est une vraie tendance de la justice et de l'État avec les flux migratoires actuels, Cécile Coudriou?
Pour nous, il s'agit très clairement d'une dérive qui nous préoccupe énormément, une dérive vers la criminalisation de l'action militante, d'une action qui est motivée uniquement par un geste d'humanité et de solidarité, et non pas du tout pour tirer profit, bien évidemment, de la situation des migrants.
Alors, le but de cette loi, Aurélien Taché, c'est quoi? C'est lutter contre les trafics d'êtres humains et les passeurs? C'est ça?
Oui, il faut avoir un dispositif qui permet de continuer à réprimer, évidemment, ceux qui sont dans une logique d'exploitation financière ou non, d'ailleurs, des migrants et donc qui, par exemple, sur les franchissements de frontières, peuvent faire payer de manière très chère certains réfugiés et les exploiter, ou alors, une fois qu'on est sur le sol français, effectivement, là aussi, tirer parti de la faiblesse de certains d'entre eux. Mais on constate effectivement que malgré les modifications qu'il y a eu en 2012 sur le texte que vous évoquiez, donc l'article 622.1 du CESEDA, il y a aussi des personnes qui continuent d'être réprimées alors même qu'elles sont uniquement dans une logique d'assistance et humanitaire. Et moi, je fais partie des députés qui considèrent qu'il est important que cela évolue et qu'on puisse donc regarder comment, dans le cadre de la loi actuelle, on peut faire bouger les lignes.
Ça veut dire que pour vous, Cécile Coudriou, pardon, oui, allez-y.
J'allais dire, cette loi reste bien trop floue. En 2012, effectivement, nous avions cru que le délit de solidarité serait vraiment abrogé. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit vous-même, certains militants se retrouvent devant la justice alors qu'ils n'ont absolument rien à faire dans un tribunal. Et donc c'est vraiment une incapacité pour l'instant de l'État à distinguer deux choses complètement différentes, c'est-à-dire effectivement des réseaux de passeurs que nous condamnons bien évidemment à Amnesty International nous aussi, et des personnes qui sont absolument pas motivées par le moindre intérêt. On voit bien le cas de Martine Landry par exemple, une militante de 73 ans qui a été au quotidien, en fait, confronté à la situation, notamment de mineurs isolés, et qui n'a fait que faire appliquer le droit. C'est là tout le paradoxe, c'est qu'en fait, lorsqu'elle a effectivement décidé d'aller à la frontière, du côté français, je le précise, pour aller chercher ces mineurs, c'est parce qu'ils avaient été illégalement renvoyés vers l'Italie.
Et car que on l'Italie ne peut pas les renvoyer en France.
Voilà, en fait, on ne peut pas, faut bien préciser ça pour nos auditeurs, on ne peut pas renvoyer des mineurs isolés dans un autre pays. L'État français, hein, a pour obligation de protéger ces mineurs. Et pourtant, elle se retrouve devant les tribunaux, elle se retrouve devant des audiences répétées, car à chaque fois le procès est reporté. Donc c'est extrêmement traumatisant de vivre cela. Heureusement, elle reste sereine parce qu'elle sait qu'elle est du côté du droit. Mais c'est quand même extrêmement grave ce qui se passe actuellement en France.
Alors ce débat autour du délit de solidarité dure depuis longtemps, vous le disiez Aurélien Taché. Il a déjà été adapté, notamment sous François Hollande. Hein. On avait promis une abrogation et puis finalement, c'est une adaptation. Racontez-nous ça.
Mais c'est un peu ça le sujet. Et c'est là où il faut arriver à encore avancer, puisqu'on voit bien qu'on ne peut pas simplement supprimer l'article 622-1 du CESEDA, parce que sinon on n'a plus de moyens de réprimer ceux qui tirent une contrepartie et qui exploitent, enfin, en tout cas c'est mon point de vue, ceux qui exploitent les migrants, les réfugiés. Donc il faut pouvoir avoir un dispositif qui subsiste, pour continuer à réprimer ces passeurs, pour continuer à se dire que quand il y a une contrepartie, quand ce n'est pas purement humanitaire, il doit y avoir une possibilité pour pour l'État et pour la justice française de poursuivre ceux qui tirent profit d'une certaine manière de ces situations, tout en arrêtant de poursuivre, enfin tout en ayant un cadre juridique plus protecteur pour ceux qui ne sont que dans l'assistance. Et des propositions et ce qu'on constate effectivement, c'est que depuis 2012, et le cas que vous évoquez de Martine Landry en est une illustration très probablement, enfin il faut que la justice se prononce, je n'ai pas de doute là-dessus, montre bien qu'on n'est pas l'évolution de la loi en 2012 n'a pas suffi à régler tous les cas. Donc il faut qu'on se repenche sur cette question et c'est le moment de le faire.
Donc ça veut dire que c'est nécessaire d'avoir un tel délit dans la loi, mais peut-être qu'il faut l'adapter, Cécile Coudriou.
Tout à fait, je ne partage pas du tout le point de vue de M. Taché sur cette situation-là. Il existe un protocole, ça s'appelle le protocole de Palerme. Donc dans le droit international, il est bien clair que ce sont deux choses différentes, que bien sûr on doit condamner, réprimer le trafic d'êtres humains, mais que justement le fait de mettre dans ce même texte deux choses radicalement différentes crée du flou et permet finalement d'intimider, de décourager une activité militante qui n'est absolument pas illégale, elle. Donc pour nous, la loi devait être l'occasion d'intégrer justement dans la loi française ce que prévoit le droit international et ce protocole de Palerme, c'est-à-dire de retirer tout simplement le délit de solidarité qui n'a rien à faire là.
Alors Aurélien Taché, est-ce que c'est le but de la loi qui est discutée actuellement? Parce que bon, vous le disiez et vous avez l'air d'être d'accord tous les deux là-dessus, entre un trafiquant d'êtres humains qui fait ça contre rémunération et un militant associatif, ou même un montagnard qui récupère, pour prendre un exemple récent, des femmes enceintes à 1750 mètres d'altitude dans la neige un soir
qui leur sauve la vie
du 17 mars. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une différence actuellement dans la loi entre ces différents cas?
Oui, il y a une différence, mais malheureusement, on voit, et c'est là où je rejoins ce qui est dit sur certains aspects, c'est-à-dire que la loi n'est pas suffisamment précise et que donc on peut avoir des condamnations alors même qu'on est bien dans une logique purement humanitaire. Après, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que il y a le trafic d'êtres humains, oui, mais il y a aussi d'autres comportements qui peuvent être sanctionnables. Ce que dit le droit européen là-dessus, ce que disent les directives européennes, c'est que l'aide au séjour apportée dans un but lucratif doit être sanctionnée. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à maintenir ça, et c'est quand même ce que permet d'une certaine manière à l'article 622.1, tout en enlevant, et donc je pense qu'on pourrait, par exemple, le groupe La République En Marche, auquel j'appartiens, a réfléchi à une proposition d'amendement dans le cadre de la loi en cours, qui pourrait consister à dire qu'il y aurait une exception humanitaire, donc à l'aide qui peut être apportée, notamment pour ce qui est quand on est sur une frontière, et qui pourrait être plus étendue encore pour l'aide au séjour, où là on aurait vraiment uniquement la contrepartie lucrative qui serait ciblée en tant que telle, comme étant répressible. Donc moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on puisse porter cette disposition dans la loi qui est débattue en ce moment à l'Assemblée nationale sur l'asile.
Ça vous rassure ça, Cécile Coudriou, d'entendre ça?
Pas encore. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une distinction entre l'aide au séjour et l'aide à l'entrée sur le territoire, et l'exception humanitaire n'existe que pour l'aide au séjour. Lorsque la personne a déjà traversé la frontière, on peut effectivement lui apporter de l'aide, soit un soutien pour demander l'asile, soit également un soutien purement matériel, voire de soins, d'hébergement, etc. Mais l'expression est assez floue tout de même, parce qu'on parle de préserver la dignité ou l'intégrité physique de cette personne. Donc c'est bien sûr à l'appréciation du juge ensuite. Donc nous, ce que nous pensons, c'est que ça doit absolument pas figurer du tout dans la loi, puisque la loi est déjà suffisamment claire, encore une fois au niveau européen et international, donc il n'y a pas besoin de créer cette suspicion et de chercher finalement à décourager une activité militante, dès lors bien sûr qu'elle est respectueuse du droit. Là-dessus nous serons d'accord, car Amnesty International fonde toutes ses positions sur le respect du droit. Ce que nous n'acceptons plus, ce sont des situations telles qu'aujourd'hui où même des personnes qui ne font que finalement pallier les manquements de l'État. Il faut essayer de comprendre, se mettre dans la tête et dans le cœur d'ailleurs d'une personne qui est confrontée au quotidien, à la frontière franco-italienne par exemple, ou encore à Calais, ou dans d'autres situations. Vous parliez de ce monsieur à Briançon qui est venu en aide à une femme qui était en train d'accoucher dans des conditions absolument terribles. C'est vraiment juste un geste d'humanité. Et ceci, en 2019, ne peut absolument pas être ni pénalisé, ni même découragé. Au contraire, on devrait prendre à bras le corps cette situation et faire enfin vraiment cesser le délit de solidarité.
Aurélien Taché, est-ce que selon vous, ça pourrait créer un appel d'air de supprimer purement et simplement cet article 622.1.
Non, moi je crois pas à la théorie de l'appel d'air. Donc moi c'est vraiment pas là-dessus que je. Par contre, je considère que voilà, il faut quand même pouvoir. Et je suis pas sûr que s'il y avait plus aucune disposition dans le droit national, ça suffirait à réprimer tous les comportements qui doivent l'être. Il faut donc avoir un dispositif qui permet encore une fois. Ce qu'on propose nous, c'est assez simple. L'aide humanitaire qui a été évoquée, que vous venez d'évoquer à l'instant sur l'aide au séjour, on propose de l'étendre cette exception humanitaire à l'aide au franchissement d'une frontière, et que sur ce qui concerne le séjour, on aille plus loin que la seule exception humanitaire et qu'on dise simplement uniquement les contreparties lucratives seront demain sanctionnées. Et déjà, là, on aurait, à mon avis, réglé la question de tous les cas qu'on vient d'évoquer et qui sont effectivement des purs actes de solidarité qui doivent être encouragés. Moi, j'ajouterais même que effectivement, le droit actuel et l'incertitude fait qu'on a même dans des cas où ce n'est absolument pas répréhensible et où des gens ont obtenu leur titre de séjour, ont été protégés, sont devenus réfugiés, des comportements de certains de nos concitoyens qui du coup se disent mais est-ce que moi je peux recruter un réfugié dans mon entreprise, est-ce que moi je peux héberger quelqu'un, et ça c'est très très nuisible effectivement puisque ça va contre
c'est
l'esprit de
solidarité, c'est nuisible à l'intégration, c'est nuisible à
l'intégration à laquelle voilà je
ça,
sais
ça, ça conditionne attaché. Ça conditionne justement la suite de l'intégration du parcours du migrant en France,
est-ce que je vous voulez dire
non seulement ça mais ça conditionne tout un état d'esprit chez les citoyens français dont et en plus on voit bien qu'il y a une espèce d'instrumentalisation actuellement sur un plan politique, même politicien je dirais, de certains dirigeants de partis notamment, qui cherchent à exciter justement les citoyens, à faire en sorte qu'ils aient encore plus peur, avec tout un vocabulaire extrêmement anxiogène, alors qu'au contraire, ce qu'on devrait mettre en place aujourd'hui, ce sont des systèmes qui permettraient, non pas à des citoyens, mais aux services eux-mêmes de faire face à l'immigration, et non pas dans des conditions toujours d'urgence, dans des situations où les personnes sont inquiètes de savoir si elles peuvent aider ou pas, des personnes qu'elles voient pourtant dans la détresse. Ça, ce sont vraiment des situations indignes de la France en 2019. Et donc, il est vraiment urgent que la France se mette en conformité avec le droit international. Je le répète, ce protocole date de 2002. Nous sommes en 2019 et la France n'a toujours pas
2018,
fait...
2018, hein, mais bon...
Pardon, oui, 2018, excusez-moi. 2018. Et en fait, la France n'a toujours pas fait le nécessaire après toutes ces années pour être tout simplement en conformité avec le droit international.
Alors, Cécile Coudriou vient de l'évoquer. C'est quand même beaucoup rien taché un débat de politique intérieure, non ? Avec le contre-projet du Front National, de Laurent Wauquiez, c'est difficile pour vous d'être sur une ligne de crête entre une position de fermeté et d'humanité. C'est compliqué à gérer.
Mais enfin, c'est tout le débat qu'on a actuellement. C'est-à-dire que il y a à la fois d'un côté la nécessité de mettre en œuvre le droit d'asile de manière la plus effective possible, de protéger ceux qui doivent l'être, de continuer d'accueillir en France tous ceux dont la vie est menacée à l'étranger, et donc on a à concilier cet impératif démocratique et le droit d'asile avec néanmoins une protection des frontières aussi, avec une régulation des flux migratoires autre que ceux liés à l'asile, puisqu'on ne peut pas avoir la même approche pour l'ensemble des sujets que pour l'asile. En tout cas, c'est ce que nous on défend à La République En Marche, et donc effectivement il y a un équilibre fin à trouver qui est certainement plus complexe que de simplement, comme le fait Laurent Wauquiez ou Marine Le Pen, dire qu'il faut plus d'immigration en France et y compris sur les réfugiés, limiter drastiquement, voire ne plus du tout protéger ceux qui devraient l'être, ou d'autres sur l'échiquier politique qui eux au contraire refusent de faire une distinction entre migrants dits économiques et réfugiés. Donc voilà quel est le travail qu'on essaye de faire nous actuellement.
On peut-être démonter aussi les idées reçues. Je crois que c'est vous qui, j'ai vu ça dans une vidéo en préparant cette émission, il y a 150 000 arrivées d'immigrés légales par an,
oui.
Et 150 000 départs aussi. Donc il y a pas.
C'est à peu près ça.
C'est partie des fantasmes finalement de cette fausse idée d'invasion, alors qu'en fait on oublie que les gens aussi repartent bien souvent.
Bien sûr.
Et on oublie qu'ils sont bien souvent non pas une charge, mais au contraire une chance aussi pour la France. Ce sont des gens qualifiés qui peuvent apporter des choses à la France. Et nous, ce que nous pensons à Amnesty International, c'est que la véritable façon, la meilleure façon de lutter contre les passeurs, c'est justement de mieux anticiper ces flux migratoires, ce phénomène migratoire, et d'avoir justement des réponses beaucoup plus appropriées, comme par exemple davantage de voies légales et sécurisées. Ça couperait effectivement le flux vers les passeurs. Tout cet argent qui part pour rien vers les passeurs, les migrants pourraient justement, en arrivant en France, s'en servir pour reconstruire une vie, et ça pourrait créer un cercle vertueux enfin, au lieu de toujours retomber dans ces mêmes discours de xénophobie et du rejet de l'autre avant tout.
J'en rejoins parfaitement cela, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que j'évoquais il y a quelques jours, suite à une petite polémique qu'il y a pu avoir sur les propos notamment de submersion migratoire ou non. Moi je considère qu'il n'y a pas de submersion migratoire en France. Effectivement, on a, en dehors des étudiants qui viennent, mais pour un temps court, 150 000 étrangers, tout compris, hein, donc réfugiés et toute immigration comprise, qui s'installent, et à peu près autant de Français qui partent, donc un solde migratoire quasiment neutre. Je rejoins aussi ce qui vient d'être dit sur la nécessité d'avoir des voies d'accès légales et sécurisées. À mon avis, le moyen d'y parvenir serait vraiment d'avancer sur une politique européenne en la matière et un droit d'asile européen, et donc d'avoir aux frontières extérieures de l'Europe des possibilités de faire venir les gens ensuite et de les répartir de manière plus équitable en Europe. Et enfin, effectivement, parce que moi je suis convaincu aussi que la réalité migratoire sera durable et qu'on peut se donner les moyens d'en faire une chance. Ça ne se fait pas tout seul non plus. Il faut pas. Et c'est effectivement le travail que j'ai conduit depuis 6 mois en faisant ces 72 propositions pour renforcer l'intégration. Mais ce qui vient d'être dit est très vrai. Si on s'en donne les moyens, si on regarde quelles sont les compétences des gens, leurs diplômes, les besoins aussi de la France dans certains secteurs, et qu'on construit ça dès le départ, dès l'arrivée des personnes sur notre territoire, dans le cadre d'une vraie politique d'intégration, on peut faire de l'immigration une force et une chance. Mais ça suppose un investissement de la puissance publique, ça suppose une prise de conscience et ça suppose d'encourager nos concitoyens dans les démarches de solidarité et d'intégration, puisque l'intégration, c'est l'histoire de la société tout entière et pas uniquement de l'État.
Je suis heureuse d'entendre ça. Je
rebondis là-dessus, ouais, je vois votre satisfaction, Cécile Coudriot. Est-ce que finalement, les associations ne font pas un travail d'accueil que l'État, actuellement, ne prend pas en charge?
Mais tout à fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de pallier des manquements. Quelqu'un comme Martine Landry a clairement fait appliquer le droit, alors que l'État avait failli, quelque part, et que ses enfants, ces mineurs, isolés de surcroit, étaient renvoyés en Italie, alors c'était illégal. Donc pour nous, si vous voulez, si je devais résumer par rapport à cette loi, nous considérons que contrairement à ce qui est dit, elle n'est pas équilibrée car elle met trop en péril des garanties de véritable accès au droit d'asile dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la question du délit de solidarité qui nous inquiète dans cette loi, bien sûr, il y a aussi toutes ces questions finalement de délai. Au nom de l'efficacité, on finit par moins garantir l'accès.
On réduit les délais et c'est donc le traitement de.
On ne prend pas assez en considération la situation.
Est moins protégé, moins
garanti. Oui, parce que lorsqu'un migrant arrive après un parcours absolument terrible, atroce parfois, il vient quand même
partir
pas
d'Afrique
oublier
subsaharienne,
ça.
Remonter par la Libye.
Passer par la Libye, la torture, le viol et des horreurs. Arriver ici et se dire qu'on a un délai réduit alors que c'est tellement compliqué d'avoir accès à un interprète, d'avoir comprendre tout le système très complexe en France du droit d'asile. Si en plus le recours ensuite est lui aussi avec un délai réduit, tout cela finit par créer en fait des conditions beaucoup moins favorables à l'asile alors qu'on prétend vouloir le garantir. Nous pensons quand même que cette loi n'est pas équilibrée parce qu'elle favorise davantage les expulsions ou l'empêchement de personnes de déposer l'asile plutôt que de garantir les meilleures conditions possibles. L'efficacité, oui, mais pas au détriment des droits humains. Et 6 mois, comme délai, nous paraît assez peu réaliste considérant la situation aujourd'hui.
Alors excusez-moi, je reviens sur le délit de solidarité. Pour répondre à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'abroger ce délit ne serait pas orientaché un bon moyen de raisonner les députés de la majorité qui sont, on va dire, au moins troublés par cette loi pour les raisons qui viennent d'être évoquées?
Non mais, alors, plusieurs choses. Le président de la République l'a redit dimanche soir et c'est là-dessus qu'on travaille avec nos collègues. On veut vraiment adapter cette disposition du code d'entrée et du séjour.
C'était très ambigu, excusez-moi ce qu'a dit le président. Il a quand même dit ceux qui sauvent des vies. Comme s'il pensait qu'au bateau, en mer, par exemple, et pour nous, c'est pas du tout suffisant.
Il avait l'air de faire encore un peu l'amalgame, quand même.
Aider consciemment ou inconsciemment les passeurs, c'est très ambigu.
La position qui était la nôtre tout à l'heure, donc c'est bien d'étendre l'exception humanitaire au franchissement d'une frontière et de ne plus sanctionner que la contrepartie lucrative pour l'aide au séjour, mais ce n'est pas une abrogation totale, puisque je répète que quand il y a ces contreparties lucratives ou quand on n'est pas dans une exception humanitaire pour le franchissement d'une frontière, on doit pouvoir continuer de sanctionner. Après, sur ce que vous disiez aussi sur la question des associations qui pallient l'action de l'État, dans un certain nombre de cas, et le cas que vous évoquez, c'est très vrai. N'oublions pas quand même que 90% des associations qui hébergent des migrants, qui les accompagnent et autres sont financées 100% sur des
fonds publics
de l'État.
Donc, nous sommes absolument indépendants.
C'est pour ça que j'ai dit que ça me concernait pas.
Parce que parfois il y a un peu rapide
comme ça en se disant c'est les associations qui. Non, mais attendez, enfin quand même, les 90 000 places d'hébergement qui sont pour les demandeurs d'asile dans ce pays, elles sont mises en œuvre par des associations financées par l'État. Et ensuite, pour répondre peut-être en un mot sur la loi, moi je pense que la procédure d'asile est quand même trop longue aujourd'hui, que ce n'est pas satisfaisant pour les personnes d'attendre 14 mois avant de savoir si elles vont pouvoir rester ou non en France, et que on doit
donc
arriver.
Dans ce cas-là, il faut mettre des moyens pour être sûr que ce soit bien examiné, pour pas que ce soit au détriment des droits des personnes.
Je suis d'accord avec vous, il faut que ce soit au cas par cas
dans des bonnes conditions, car les migrants ont des droits eux aussi.
C'est un objectif quand même d'atteindre une procédure.
Merci à vous, Cécile Coudriot. Merci Aurélien Taché. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Tiffany Menta. Sachez que vous pouvez consulter le site infomigrant.net. C'est un site de France Média Monde dont fait partie RFI en collaboration avec la Deutsche Welle et l'agence italienne ANSA qui vise à donner aux migrants des informations vérifiées. Vous pouvez rejoindre le débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat d'ailleurs, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.